La revue de presse, Claude Askolovitch. Bonjour Claude.
Bonjour.
Vous nous parlez de solitude ce matin.
Et de vieilles personnes qui meurent seules chez elles et dont on réalise le décès au printemps quand l'air qui se réchauffe alerte les voisins d'une odeur de corps abandonné. Alors, me raconte le magazine des Échos, des professionnels viennent et nettoient à neuf l'appartement en deux jours. Les appareils ménagers vont aux spécialistes de l'occasion et les vêtements se vendent au kilo. 500 yens, soit 4 euros pour les habits ordinaires. Oui, des yens, car cela se passe au Japon, dont le magazine des Echo raconte dans un très bon numéro l'étrangeté et la proximité. Car si l'abandon n'est pas que nippon, il est là-bas un phénomène de masse dans une société ébranlée. Les petits hôtels familiaux, ces reliques shinto que les vieillards conservaient pour leur famille disparue avant eux, sont recyclés dans un temple où un moine pour 25 euros va prier pour ceux qui n'intéressaient plus personne ici-bas. C'est un bel article et qui entre en résonance avec Lacroix qui ce matin parle du deuil et raconte fort bien ce moment où celle ou celui qui reste se débat entre sidération et souffrance, épuisement, angoisse, dépression, douleur à l'âme et douleur physique, et on compte les premières fois. La première fois qu'on se couche seul, le premier vendredi soir, le premier anniversaire, dit Caroline, 49 ans, qui n'a que 3 ans de deuil derrière elle. 3 ans, oui, cela dure longtemps et notre société technicienne et de performance, me dit Lacroix, qui nous demande d'aller de l'avant, net pas à comprendre cette lenteur. Elle est parfois cruelle aussi, notre société, d'être mal organisée. Et je lis dans Paris-Normandie que dans l'arrondissement de Caux-Vallée-de-Seine, Chantal n'a pu enterrer son papa que 3 semaines. 3 semaines après sa mort d'une crise cardiaque, et elle n'est pas la seule. Là-bas, un enterrement sur 3 pratiquement se déroule après le délai légal de 6 jours. La faute à la sociologie, les baby-boomers, enfants nombreux de l'après-guerre, commencent à partir et demandent bien souvent à se faire incinérer. Les crématoriums sont embouteillés.
Et puis Claude, le journal Le Monde raconte les deux rives de la Manche.
Et d'une très bonne idée, racontée à échelle humaine, deux voisins qui se séparent, la France et l'Angleterre, puisque le Brexit est une forme de deuil politique. Le Monde de cette idée a fabriqué deux reportages formidables. Le premier sur la Normandie, le deuxième en Angleterre du côté de Portsmouth, et Rémi Ourdan, grande plume du Monde, raconte une histoire de fascination mêlée de haine. Elle démarre sur la plage de Houlgate, chez nous, où une colonne oubliée, rongée par les vents salés, commémore le départ en 1066 du duc Guillaume de Normandie, qui allait conquérir l'Angleterre et battre Harold. Eh bien, on siffle Guillaume dans les reconstitutions historiques, là-bas chez eux en Angleterre, où un rude britannique se tatoue en souvenir d'Azincourt, où les archers anglais décimaient nos chevaliers. Oui, mais en France, près de Cherbourg, pendant la guerre du Golfe en 1982, la plus belle discothèque du Cantentin s'appelait Exocet, en l'honneur de ce missile français que l'Argentine envoyait sur la Navy. Et voilà donc un reportage de chair et d'histoire où l'on convoque aussi bien cette libération de 1944, qui se fit au prix de 20 000 civils normands décimés par les alliés qui bombardaient, que la guerre de 100 ans, quand nos villages normands sont changés si souvent de maître, que le célèbre « peut-être ben oui, peut-être ben que non » serait né de cette incertitude. Au cimetière militaire britannique de Bayeux, je lis cette phrase latine qui sonne comme une revanche. Nos aguiel Guglielmo Victi, victoris patriam liberavimus, nous qui fûmes vaincus par Guillaume, libérèrent la patrie du vainqueur, nous disent les Anglais. Ayant lu cela, Ali, vous regarderez autrement les excellents articles dans Le Figaro ou dans L'Opinion notamment, qui racontent comment Macron de France fut dur à Madame May d'Angleterre, venue quêter un peu de patience en Europe. Marianne, qui est drôle, raconte les rudes années du Brexit. Brexit, oui, car entre 1956 et 1971, le royaume se battait pour intégrer l'Europe. De Gaulle s'y opposait. Macron renaîtrait donc gaulliste et avec lui Dominique Strauss-Kahn. Tiens, un revenant dans les Échos qui nous dit que sans les Anglais, l'Europe aurait été plus vite et mieux unie. À Bayeux, où une tapisserie célèbre commémore la conquête de l'Angleterre, West France me raconte une drôle d'histoire. Celle d'un soldat allemand pendant l'occupation qui fut chargé de prouver que Guillaume le Conquérant était de sang viking, donc arien, pour inscrire ce victorieux dans la mythologie nazie. Oui, mais ce soldat, Herbert Jeschke, se prit d'un amour sincère pour la broderie du XIe siècle. Et 78 ans après, son travail a été remis par ses descendants à la ville normande. Cette histoire de bon soldat allemand, quand on me parle ailleurs de méchants anglais, peut m'étonner, mais c'est la grâce des journaux de savoir choquer.
Et un journaliste plaide dans Le Monde pour la liberté d'offenser.
Qui se nomme Yann Buruma et dirigeait la très prestigieuse New York Review of Books et a dû quitter son poste sous la pression d'une opinion chauffée à blanc après avoir publié un texte écrit par un Canadien, Gian Gomeschi, chez lui vedette audiovisuelle, qui avait été jugé et acquitté pour de multiples agressions sexuelles. Gomeschi se disait victime d'un hashtag MeToo. Buruma s'affirme victime de l'esprit du temps. Son texte va nous déranger, mais il ne vient pas seul, car d'autres textes ce matin défendent la liberté d'expression contre les meilleures intentions qui peuvent s'égarer. Dans Le Monde, des auteurs de théâtre, Wajdi Mouawad et Ariane Mouchkine, qui est également dans Marianne, défendent la liberté de création, après que de pièces d'Eschyle, on le sait, aient été empêchées par des militants noirs. Les mêmes militants peut-être qui manifeste devant l'exposition tout en Camon à la Villette, nous révèle le site du Point, qui interroge une égyptologue effarée de l'idéologie qui monte chez ses militants, persuadée que l'on veut cacher au peuple que tout en Camon était noir. Dans Analyse Opinion Critique, une universitaire défend les enfants qui manifestent pour le climat et qui sont les vrais adultes de notre temps. Elle choquera les barbons. Enfin, un autre homme choque, qui est à la une du Figaro et aussi dans La Croix. Benoît XVI, ancien pape, s'en prend à la dégradation des mœurs qui seul aurait corrompu une église qui ne doit pas se réformer, dit-il en substance dans un texte dont certains doutent de l'authenticité. Nous apaiserons nos inquiétudes et j'en termine par la douceur du petit Jésus. Jésus, ce petit Jésus qui fut, nos palais s'en souviennent, un bonbon sucré en meringue qu'on croyait disparu mais que 180 degrés, un magnifique journal de cuisine a redécouvert. Cela vaut toujours mieux que le Coca-Cola, dont le Parisien Week-end raconte les turpitudes sucrées.